Immersion. Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Héritier d'une longue lignée de fresquistes et de peintres d'icônes, Nicolas Grechny, né en 1912 dans l'Empire des Tsars, dans la lointaine Estonie, repose aujourd'hui dans la crypte de la chapelle orthodoxe d'esprit roman qu'il a construite dans le hameau de la Morignée, sur la rive gauche du Tarn. C'est là, dans son paradis, comme il aimait à dire, que fuyant la persécution religieuse et cherchant un endroit tranquille pour se réenraciner, Nicolas Grechny vécut quelques 40 années entouré de sa famille et d'amis, toujours nombreux. Aujourd'hui, son fils Michael a repris le flambeau de la fresque. À son tour, il travaille et vit là avec sa famille et trace son propre sillon. Il me reçoit un matin de novembre dans ce hameau, aujourd'hui réhabilité. Le froid, en dépit du ciel clair, nous maintient à l'intérieur de la maison, véritable sanctuaire familial. Il nous retrace l'épopée d'une famille que la folie des hommes a conduit des rives du Nièvre jusqu'aux raspes du Tarn.
Oui, disons que tout le berceau de la famille, comme beaucoup d'anciennes familles russes et l'Ukraine, mais mon père, lui, est né en Estonie parce qu'il y a eu à un moment, disons, des bouleversements. Donc nous sommes iconographes de père en fils depuis le XVIe siècle. Voilà, ça c'est donc un élément qui est quand même très important. Et on dit dans notre tradition familiale que cette tradition remonte au XIVe siècle. Il y avait donc à l'époque, à chaque génération, des moines, puisque c'était essentiellement des moines qui pratiquaient ce métier-là. Donc qui ont pratiqué l'iconographie et la fresque. Et c'est seulement depuis le XVIe siècle que ce métier donc se transmet de père en fils. Voilà. Et il y a donc des Grechny, parce que Grechny est un nom pour la famille qui est assez tardif. C'est-à-dire que la famille s'appelait Volkov. Mais il y a dans notre famille un moine qui à un moment donné a pris le nom de Grechny, qui veut dire pêcheur, donc tout simplement par pénitence. Et il se trouve que notre famille est d'origine starovière ou raskolnik. Ce sont donc tous ces orthodoxes russes qui ont refusé toutes les réformes donc du patriarche Nikon au début du XVIIe siècle, et qui ont voulu conserver toutes les anciennes traditions et dans la liturgie et dans l'iconographie. Donc là, on en reparlera pour l'iconographie, parce que c'est quelque chose de très important, et c'est c'est un patrimoine très précieux. Voilà. Et donc, à chaque génération, se sont succédés des peintres d'icônes et des iconographes, parce qu'en fait, et des fresquistes, parce qu'en fait, la fresque et l'iconographie est tout à fait le même métier. Voilà, et tous les iconographes de métier ont très souvent pratiqué la fresque. Vous avez André Roublov, vous avez Théophane le Grec. Théophane le Grec était essentiellement connu pour ses fresques, mais a pratiqué les deux métiers. Et mon père, donc, est issu de cette lignée, mais lui a perdu son père très très jeune. Et il a appris le métier, en fait, grâce à ma grand-mère, parce que sa mère avait conservé ce que l'on appelle un pot de linique. Le pot de linique est un manuel technique, mais ensuite un manuel qui décrit toute la scénographie toute une série de descriptions nécessaires pour être conforme à cette écriture. Donc nous avions dans la famille un pot de linique, et mon père a travaillé essentiellement avec ce document. Et ce qui est très très triste, c'est qu'il lui a été pris, ce pot de linique lui a été pris lors d'une rafle à Orléans par un policier. Donc c'est un élément qui, hélas, aujourd'hui ne doit plus exister.
Pour comprendre la vie et l'œuvre de Nicolas Grechny, il nous faut la replacer dans l'histoire d'une famille que la folie des hommes, nous l'avons déjà dit, dès le XVe siècle, avait déplacée d'Ukraine en Estonie. L'œuvre de celui qui, sa vie durant, avait doté les diocèses de France d'un patrimoine de fresques byzantines unique en Europe, est le fruit d'une odyssée courue par sa famille sur plusieurs siècles et vécue dans son âme et dans sa chair au cours de tragiques événements qui secouèrent l'Europe entre 1917 et 1945.
Oui, c'est-à-dire que tous les Staroviers ont été persécutés. Et assez tardivement, au 19e, ma famille a été bannie dans les provinces du Nord. C'est pour cette raison qu'ils se sont installés en Estonie. Et il a fallu attendre un édit de tolérance de Nicolas II pour que les Raskolniks puissent avoir le droit de pratiquer. C'est pour cette raison que la famille a émigré dans les provinces du Nord, comme pour cette raison.
Alors revenons plus précisément à votre père. Nous sommes dans les années 30, il a 15-16 ans, et nous le retrouvons à Berlin. Je crois qu'il fait les Beaux-Arts. Berlin, c'est une ville où s'écrivait la vie artistique, intellectuelle d'avant-garde. Est-ce que là, il fréquente d'autres artistes? Est-ce que, je ne sais pas, le mouvement expressionniste, est-ce qu'il est en lien avec d'autres artistes?
Non, pas à ma connaissance, mais il était élève du professeur Welt, qui était un homme qui avait une très très grande connaissance technique. Parce qu'en fait, ce qui a motivé essentiellement mon père, toujours dans ce métier, c'est une très très grande rigueur technique. Et donc, effectivement, chose que nous avons totalement perdu, que nous avions, parce que les choses reviennent quand même heureusement, mais que nous avions totalement perdu en France par exemple, c'est une très très forte exigence technique et une connaissance des anciennes techniques dans la peinture. Voilà, et disons que mon père est donc a suivi l'école des Beaux-Arts à Berlin, il a ensuite travaillé à Vienne. Et donc, d'après ce dont il me parlait, c'était essentiellement une grande, grande formation technique.
Alors, revenons à votre père dans les années 30. Les premiers bruits de bottes nazies commencent à se faire entendre. Quelle attitude a-t-il face à la montée du nazisme?
Alors, par rapport à la montée du nazisme, il est tout de suite rentré. Il est tout de suite rentré dans des mouvements de jeunesse donc chrétienne qui se sont forcément retrouvés contre l'idéal national-socialiste. Et mon père s'est retrouvé à faire donc du contre-espionnage pour le compte du Vatican. Et hélas, c'est un prêtre qui avait une double nationalité américaine et autrichienne, si je me souviens bien, qui ne pouvait pas, bon c'est un homme qui était relativement bien protégé, mais il a été interrogé par la Gestapo lors d'une opération de l'appendicite sous anesthésie. À son réveil, il a été interrogé et il a donné tout le réseau. Donc du coup, mon père est parti. Il n'est même pas passé chez lui. Et ensuite, il a changé. Il a passé toute une partie de la guerre à bourlinguer dans toute l'Europe, a changé plusieurs fois d'identité. Il est revenu d'ailleurs en Estonie à cette époque-là. Et finalement, il est allé en Belgique. Il était à Louvain. Là, il a commencé ses études de théologie. Quand la Belgique donc s'est retrouvée sous domination nazie, il a quitté la Belgique, il est allé en France, et c'est là où il s'est fait arrêter par la police française parce qu'il était sur les listes rouges de la Gestapo, et il a terminé dans la région de Perpignan à Saint-Cyprien. Dans un camp de triage. Voilà. Et donc là, sachant qu'il était là, l'Église catholique a organisé son évasion. Il a été caché dans les caves de l'évêché de Perpignan. Ensuite, il est allé à Toulouse où il a terminé ses, justement ça, il a terminé ses études de théologie. Et ensuite, il est arrivé comme à la suite de cela à Albi. Voilà. Et donc là, il a été caché donc à la collégiale, qui était une maison de retraite pour vieux prêtres. Et il est rentré dans le maquis, mais ne voulant pas porter un fusil, étant donné que sa mère était allemande, donc il ne voulait pas tuer un Allemand, mais il faisait, comme l'allemand était sa langue maternelle, il se chargeait donc de traduction et ensuite traduction et Croix-Rouge. Voilà, et donc il a passé donc la fin de la guerre dans la clandestinité à Albi. Et c'est à la suite de cette période très noire qu'il a acheté un tas de ruines donc à la Morinier, qu'il a remonté ces ruines, qu'il a construit ce qui lui était le plus cher donc comme rêve, il a construit une chapelle. Et voilà, et donc c'est devenu la Morinier aujourd'hui. Mon père donc était catholique de rite byzantin. Voilà, il paraît qu'il ne faut pas dire uniate, c'est un petit peu péjoratif. Donc on dit catholique de rite byzantin. Et donc c'est une église qui a conservé tous les rites orthodoxes. Effectivement, il n'y a aucune différence, même le calendrier.
Déraciné prend racine sur ce petit bout de terre tarnaise. Il épouse une artiste languedocienne, peint, décore les murs des petites églises de la région, des églises de style roman pour la plupart. Comment alors concilier dans ces églises la tradition de l'icône et de la fresque byzantine avec l'art occidental?
Alors d'abord, ça s'est fait dans un grand respect. Parce que quand il a construit sa chapelle à la Morinier, quand on regarde cette chapelle, elle a plutôt un aspect roman, parce qu'effectivement, il ne voulait pas imposer dans la région une architecture russe. Voilà, donc il n'y a pas de bulbe dorée, il n'y a pas de choses comme ça. En revanche, l'intérieur a une connotation beaucoup plus byzantine, effectivement, dans le sanctuaire, parce que cette chapelle est en même temps un petit musée privé avec des objets d'art religieux, essentiellement du Languedoc. Voilà, quand il est arrivé, c'est vrai que l'art byzantin n'était absolument pas connu. Et il y a quand même une grande similitude avec, quand on regarde les fresques byzantines, il y a, même si le style n'est pas le même, il y a quand même énormément de similitudes avec l'art roman. L'art roman a une forme de stylisation qui lui est propre, mais il s'est arrêté. Et effectivement, il y a un point commun entre l'art byzantin, entre l'art de la peinture byzantine et l'art roman, c'est qu'en fait, il s'agit d'un art sacré. Pourquoi ? Parce qu'il y a, c'est pas un art religieux, c'est un art sacré, parce qu'il y a une recherche d'intemporalité, chose qui va disparaître à partir de la période gothique et ensuite par la suite en Occident, où il y a vraiment une démarche de naturalisme. Voilà, chose qui a existé aussi en Orient, aussi bien en Russie qu'en Grèce. Il y a eu une forte influence de l'imagerie italienne ou allemande qui a quand même énormément abîmé les icônes. Et c'est là où il y a une grande richesse, justement, avec les Starovières ou les Raskolniks, c'est de rester vraiment fidèle à la tradition. Et donc les iconographies en Russie, dans les milieux raskolniks, n'a pas évolué, n'était pas du tout à la recherche d'un naturalisme qui a été une source d'inspiration. Quand on regarde, techniquement c'est très très beau, mais les icônes de Simon Otchakov sont des icônes, on l'appelait le Raphaël russe, et bon, ça s'écarte énormément de la tradition, et c'est vrai que ce sont ce que l'on appelle des icônes déviantes, c'est très décadent. Voilà, et donc la tradition raskolnique a préservé l'iconographie de ses influences et resté dans une plus pure tradition, mais toujours vivante. Donc effectivement, l'art de l'iconographie, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il s'agit, on dit un iconographe, c'est celui qui écrit. Donc c'est une écriture, cette écriture doit être lisible par tout le monde. On ne tombe pas dans une interprétation comme on peut On peut l'avoir avec un tableau impressionniste, par exemple. Bon, voilà, il y a des touches de couleurs qui vont nous donner une impression d'un arbre, par exemple. Sur une icône, c'est un arbre qui est écrit. Pour cette raison, il est stylisé. Voilà. Maintenant, ce qui est très, très important, et c'est le point commun qu'il y a avec avec la fresque romane, par exemple, et donc la fresque byzantine ou l'iconographie byzantine, c'est la même chose, c'est que c'est un moyen extraordinaire pour traduire, pour interpréter toutes les vérités spirituelles. C'est un support qui est un support de réflexion qui est absolument, absolument extraordinaire. Et ce qui est très très important dans ce métier-là est de rester avant tout fidèle donc aux Écritures, à la parole de Dieu, et je pense de bien bien la connaître. Voilà, donc ça c'est capital.
C'est une théologie à l'image, enfin,
Oui, c'est toute une réflexion, c'est toute une méditation sur la parole. C'est aussi un moyen de rendre, parce que la définition d'une icône est de représente au véritable sens du terme, c'est-à-dire qu'elle rend présent. Donc, si on représente une scène de l'Évangile, par exemple. Cette scène s'est passée il y a pratiquement 2000 ans, et elle est toujours vivante aujourd'hui. Et donc, ce qui est représenté au travers de l'icône est quelque chose qui est une vérité qui est toujours vivante aujourd'hui.
Et dans les années 50, Nicolas Grejny commence à connaître une belle notoriété, notamment grâce au père Gilbert Assemat, vicaire général d'Albi, qui l'encourage à peindre des fresques dans un grand nombre d'églises, de chapelles de la région et bien au-delà aussi. Son mode de vie pour autant ne change pas. Il continue à vivre, selon les dires du père Assemat, de façon presque monacale.
Oui, ça, il a vécu toujours très très simplement. Mais effectivement, il s'est mis à avoir une certaine notoriété, mais la fortune n'est pas arrivée avec, voilà. Et puis de toute façon, c'était aussi un caractère à vivre d'une manière très simple. Il n'aimait pas du tout les excentricités.
Et en lien avec la nature, avec l'environnement, avec la création aussi.
C'est-à-dire que oui, il aimait beaucoup la nature, donc c'était vraiment, il avait un côté homme des bois. D'ailleurs, il y avait beaucoup de camp scout qui venaient ici, il y avait beaucoup de, c'était un personnage, c'était une espèce d'homme des bois avec un arc, des flèches, si quelqu'un venait, il allait préparer le repas en prenant des plantes, des choses comme ça qu'il avait dans la nature. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont connu cette époque-là et qui se souviennent avec beaucoup d'amusement et encore d'émerveillement de ce que représentait ce personnage qui était complètement excentrique. Et fascinant parce que, c'est aussi quelqu'un qui était à l'aise dans tous les milieux, qui était à l'aise dans tous les milieux et qui était apprécié par tout le monde, parce qu'il savait se mettre à la portée de tout le monde. Et bon, moi, je l'ai vu aussi bien à une table de ferme que dans un salon d'une très très belle propriété du sud de la France, entouré de tableaux de maître. Donc il était à la portée de tout le monde. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose d'extraordinaire.
Et un travailleur extraordinaire aussi.
C'est quelqu'un qui a fait un travail remarquable. Mais il n'y a pas que dans les églises, même ici à La Morinière, il passait son temps à charrier des pierres, à monter des murs. Ensuite, il retournait peindre, il allait dans les bois, il allait ramener quelques bûches, il refendait du bois, il entretenait le feu. C'est quelqu'un qui n'arrêtait pas.
Un homme ouvert sur le monde, quand même, qui n'était pas renfermé sur son art.
Ah non, mais son art était quelque chose de capital dans sa vie, parce que l'art de l'icône, c'est aussi un moyen de crier sa foi. Donc c'est quelque chose de très important, mais c'est en même temps quelqu'un qui, bon, il n'aimait pas bouger d'ici. Il n'aimait pas partir, il faut dire qu'il avait tellement bourlingué, il s'est posé, il a construit ici ce petit paradis. Et voilà, il n'aimait pas partir, il partait très rarement. Mais il aimait que recevoir beaucoup de gens. D'ailleurs, s'il a fait un musée privé dans cette chapelle, c'est aussi pour que ce soit quelque. Son désir était de partager tout ça avec beaucoup de monde. Voilà, donc il y avait ce désir de partager son milieu, de partager tout son patrimoine.
À son tour, et depuis de longues années, Micha Grechny a repris le flambeau et dans un sillon qui porte désormais sa propre empreinte, il perpétue et donne vie à cet art venu de l'Orient ancien.
Oui, donc il n'y a pas que moi, puisque donc ma mère aussi a passé pas mal d'années auprès de ce bonhomme-là. Donc ma mère a aussi peint pas mal d'icônes. Mais effectivement, moi j'ai repris la fresque parce que j'ai eu la chance d'être un petit peu sur l'échafaudage avec mon père. La première fois qu'il m'a mis sur l'échafaudage, j'avais 13 ans, c'était à Saint-Genès-l'Herbe, à côté de Saint-Étienne. Et ensuite, j'ai participé à un chantier de fresques en 78, je pense, oui, c'était 78, du côté de Béziers, où il m'avait confié pas mal de choses. Mais c'était extraordinaire, parce que même quand j'avais 13 ans... Je sais pas si moi j'oserais, mais je me souviens qu'il me confiait des ailes d'évangéliste, par exemple. Je me dis, bon, c'est quand même quelqu'un qui prend des risques. Bon, ça s'est bien passé, mais ça c'était aussi extraordinaire, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui, quand il me demandait de travailler avec lui, il me faisait confiance. Donc ça c'était merveilleux. Mais effectivement, je continue la fresque, parce que la fresque est quelque chose d'extraordinaire. Et là, s'il n'y a pas beaucoup beaucoup de demandes, mais bon, il y en a quand même quelques-unes.
Vous faites des ateliers, je crois, aussi.
Oui, et puis ensuite...
Vous organisez des ateliers d'école, non?
Oui, j'enseigne. Donc, c'est-à-dire qu'en 68, mon père et ma mère ont créé des stages qui se déroulaient ici. Donc ça, je continue ces stages de technique ancienne de la peinture et d'iconographie. Un petit stage de fresque aussi. Je continue cet enseignement l'été depuis 85. Et l'atelier a été créé en 68, donc il y a pas mal d'heures de vol. Et je vais maintenant, parce que c'est un atelier qui est merveilleux, mais qui ne peut fonctionner que l'été, parce qu'il n'est pas très très bien chauffé. Je vais maintenant démarrer des cours hebdomadaires, puisque j'ai trouvé un petit local idéal pour ça, sur le petit village de Marsal, qui est juste à côté. Voilà, donc l'atelier va ouvrir une petite annexe, et donc je vais pouvoir démarrer, chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, des cours hebdomadaires.
Et lorsque je suis arrivée, Micha Grechny m'avait dit que vous faisiez de l'orfèvrerie, donc c'est une autre façon de s'exprimer aussi.
Oui, c'est une autre façon de s'exprimer, mais il y a beaucoup de pièces qui sont liées à ma tradition, puisque là, en ce moment, donc, je travaille sur un vase Saint-Crème, mais j'ai fait beaucoup de croix pectorales. Il y a donc une forte influence, sur mes croix pectorales, par exemple, il y a quand même une forte influence byzantine, voilà. Mais c'est aussi une manière d'avoir un autre centre d'intérêt, je ne sais pas, c'est... Voilà, de toute façon. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Et puis, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai qu'il y a, je dirais, avec la partie bijouterie, bien que là. Oui, avec la partie bijouterie, il peut peut-être y avoir, un côté, peut-être, entre guillemets, un petit peu à faire. Chose que je n'ai pas tellement envie d'avoir avec les icônes ou avec la fresque. Parce que je n'ai pas envie de tomber dans un travail à fournir. Effectivement, quand je prends une commande d'icônes, j'aime bien m'entretenir avec le commanditaire pour être d'accord sur les thèmes, parce que bon, personnellement, moi, je suis très très attaché à une fidélité à la parole de Dieu. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'icônes qui sont qui ont une comme source d'inspiration, par exemple des textes apocryphes. Donc s'il y a un détail d'un texte apocryphe qui permet d'annoncer une vérité biblique, ça ne me dérangera pas. Mais si c'est juste une scène apocryphe qui pose un petit peu problème, je ne la traiterai pas. Voilà. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont liées effectivement à la tradition, mais qui peuvent être basées sur des légendes, et ça m'embête, ça me gêne. Voilà, donc je n'ai pas, j'ai pas très envie de faire ça.
Passeur d'hommes, passeur de Dieu, Nicolas Grechny est un artiste qui dresse l'arche d'unité entre l'Orient et l'Occident, entre le profane et le sacré, entre l'homme et Dieu. Du Tarn à l'Aveyron, en passant par la Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées et ailleurs encore, n'hésitez pas à aller découvrir ces églises et ces chapelles par lui décorées. Recouvertes de fresques, elles sont fenêtres sur l'éternité.